Oui, c'est la grève sur France Inter. Ah oui, ouf, merci. Merci beaucoup.
France Inter est en grève et ça fait plaisir de voir que des gens résistent et demandent des augmentations de travail justifiées. Ça fait aussi du bien de voir que la RATP sur certaines lignes est également en grève pour les mêmes raisons. L'Association pour la formation professionnelle des adultes également en grève ce jour parce que c'est de nouveau la casse d'un service public de proximité pour les précaires, les demandeurs d'emploi et les chômeurs. Merci de votre courage et j'espère qu'un jour les Français vont se réveiller.
Salut Daniel, c'est José. Je comprends pas pourquoi vous assurez pas le service minimum avec des rediffusions. Bon, avec la chance de travailler dans une radio sans pub, intelligente et à mon avis d'utilité publique, alors que beaucoup galèrent dans des boulots difficiles, et sûrement pour un salaire inférieur. Voilà, donc en fait, on vous attend avec impatience et j'espère à bientôt. Merci.
Ouais, salut à tous. Eh ben, j'espère que ceux qui se sont mis en grève en 3 jours ont réussi à obtenir ce qu'ils voulaient. C'est bien que ça revienne. Ce soir à Nice, il y a un repas de rue de Noël qui est organisé dans le Vieux-Nice, sur la place Rossetti, là, juste devant la grande église du Vieux-Nice, l'église Sainte-Réparade. Ben, chacun amène un panier, chacun amène un truc, et puis on partagera un morceau ensemble. Allez, bisous, ciao, vive, portez-vous bien.
Bonjour tout le monde. Avec l'approche de Noël, ces histoires de minarets, débats sur l'identité nationale, m'est revenu un souvenir d'enfance. Il faut que je vous dise que mes parents sont chrétiens parce qu'ils ont hérité de la religion de leurs parents. Mais ça fait bien 40 ans dans la famille qu'on n'est pas rentré dans une église pour autre chose qu'une visite historique, un mariage ou un enterrement. Mais je me souviens qu'à l'approche de Noël, dans le salon, mes parents mettaient un sapin et sur le buffet, eh bien, on faisait une crèche. Alors d'un côté, il y avait une grande grotte avec tous les protagonistes. Et vers cette grotte se dirigeaient les rois mages, bien sûr, avec leurs chameaux, des bergers, des artisans, des chiens avec leurs troupeaux de chèvres ou de moutons. Et à l'autre bout du buffet, il y avait une oasis avec un petit village arabe que mes parents avaient fabriqué. Et au milieu de ce village trônait un anachronisme que personne ne remarquait. C'était un minaret. Allez, joyeux Noël à tous, frères humains qui avec nous vivaient. C'était Magali d'Ardèche.
Eh bien, merci pour tous ces messages, fidèles AMG. Merci de votre soutien et de votre compréhension, au moins pour la grève de nos camarades. Tout rentre dans l'ordre, on va pouvoir fêter Noël gaiement. On continuera, nous, notre voyage en Inde début janvier, mais aujourd'hui, on va revenir en arrière un peu dans quelques numéros de là-bas si j'y suis, et on va commencer par la burqa, puisqu'on parle beaucoup de burqa ces temps-ci, ça ne vous échappe pas, j'espère. Nous, ça ne nous avait pas échappé au début septembre avec Dila Tebi, on s'était penché sur ce sujet. Ça avait été un grand boom dans la base si j'y suis, mais surtout dans la boîte vocale de la base si j'y suis. Vous pouvez aller voir sur le site la-ba.org le nombre de messages qui ont suivi ce sujet, c'est considérable. Alors, évidemment, on sait très bien ce qui anime certains hommes politiques, et c'est le pur et simple marketing électoral, le pur et simple filon électoral, mais évidemment, ça ne s'arrête pas là, il y a tout un racisme ignoré qui est là, un racisme acceptable, comme disait un sociologue. Donc voilà notre sujet aujourd'hui. Le bruit que vous entendez au-dessus de moi, je suis dans le train, je vais vers la Bretagne quelques jours, et comme mon portable était vide, j'ai été obligé de m'héberger dans les toilettes du train. Voilà, c'est donc à la base, j'y suis, une présentation en tout cas depuis les toilettes du TGV qui fonce vers Vannes. Donc la burqa. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Vendredi, Daniel Mermet annonce qu'un gouvernement communiste a été démocratiquement élu dans l'État du Kerala en 1957. Démocratiquement, la partie grecque de Chypre a élu un président communiste en février 2008. Dimitris Christofias, secrétaire général du Parti communiste à Kiel, dont la priorité est un processus de réunification de l'île divisée depuis 1974 et le progrès social. C'est Régis de Nîmes.
Faut que je vous dise un truc. Dans mon syndicat, ils sont lourds. Je les admire, c'est des héros, mais ils sont lourds. Démarrer une grève de la faim une semaine avant Noël pour soutenir Nordine, alors que les collègues, les médias et les politiques pensent d'un dos marron, ils sont lourds, je vous dis. D'un autre côté, laisser Nordine passer les fêtes tout seul avec sa lettre de licenciement et ses médocs, c'était limite. Bon, pour vous mettre dans le coup, Nordine, c'est Nordine Marougue, qui vient d'être licencié de GRDF, la filiale de GDF Suez. Faut dire que le Nordine, il l'a un peu cherché. Hein. Le mec, il a pas compris qu'on n'était plus à EDF-GDF. Un des derniers endroits où, quand tu faisais grève, tu perdais ton salaire, mais tu risquais pas ton boulot. La lutte syndicale à la papa, c'est fini, mon garçon. Maintenant, t'es avec de vrais patrons. Ce qu'ils te font cracher, c'est direct dans leur poche. Mestralet, ton PDG, c'est 8 millions d'euros de stock options cette année. Tu crois qu'il va partager avec toi sous prétexte que c'est toi qui es dans la fouille? Alors là, franchement, t'abuses. Donc t'as fait grève au printemps, t'as montré ta gueule dans les journaux, et ben maintenant, tu vas servir d'exemple pour les autres marioles qui auraient pas encore compris. Fini la grève à GDF Suez. Le premier qui bouge une oreille, hop, faute professionnelle. Les syndicats verseront peut-être une petite larme. Ah ouais, quand même, il y a tes collègues qui ont les boules, ils sont mobilisés pour toi. Mais ils sont tout seuls. Même à GDF Suez, personne ou presque ne sait ce qui se passe. Les citoyens français? Alors là, tu pousses. Hein. D'abord, c'est Noël. Et en plus, cette année, il y a Johnny Cabobo. Alors tu comprendras que les journaux respectables et autre chose à traiter. Ah ouais, puis il y a les responsables de ton syndicat qui sont en grève de la faim. Bah s'il n'y a plus que ça. Bon allez, on ne peut pas laisser tomber Nordine. Venez signer la pétition de soutien sur le site www.droitdegrève.org. Les collègues, les citoyens, faites savoir que c'est le droit de grève qui est en jeu. C'était Laurent de Malakoff.
Je le dis en pensant en particulier Dame de juin 2009. Aux Français de confession musulmane.
Nicolas Sarkozy.
Nous ne devons pas nous tromper de combat. Dans la République, la religion musulmane doit être autant respectée que les autres religions. Le problème de la burqa n'est pas un problème religieux. C'est un problème de liberté, c'est un problème de dignité de la femme. La burqa... La burqa, ce n'est pas un signe religieux, c'est un signe d'asservissement, c'est un signe d'abaissement.
Bonjour, je viens pour compter le nombre de burqas.
Elle ne sera pas le bienvenu sur le territoire de la République française.
Bonjour, je viens compter le nombre de burqas.
Allez, couillons. Bonjour.
Trois tapis à pour 2 euros. Trois tapis à pour 2 euros, frère.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Dila Tebi, ce que la burqa nous voile.
Flight number 2, arriving from New
York. Bonjour. Je viens pour compter le nombre de burqas.
Le nombre de quoi, vous avez dit?
De burqas.
J'en ai pas croisé.
On m'a dit qu'il y en a 367 et près de 200 rien que pour Lyon et sa région.
C'est des mensonges. C'est
non,
des mensonges.
C'est marché de charpennes.
Mais sur combien d'habitants? Sur 60 millions d'habitants, ça veut rien dire. Ça n'a pas de sens. C'est,
Le voile, je suis pas contre, mais compliqué. La burqa, non. La burqa, pour moi, c'est de l'emprisonnement.
Non, mais c'est un peu compliqué.
C'est atteinte aux droits de l'homme.
C'est-à-dire
Je pense pas que le regard d'une femme doit être censuré par un accessoire.
Vous faites quoi dans la vie, vous?
Moi, je suis assistante dans l'industrie.
Moi, je suis informaticien.
Vous avez quel âge?
J'ai 50 ans. S'ils veulent garder la forme, ils la gardent, mais au moins qu'on voit les yeux de ces dames. Bon, les gens qui viennent, par exemple, des pays du Moyen-Orient, etc., quand on fait les marchés, il y en a qui ont la burqa. Mais je veux dire, il y a un temps d'adaptation aussi quand on s'intègre à un pays, un certain temps d'adaptation. Donc, on ne peut pas leur demander aussi, du jour au lendemain, s'habiller en costard-cravate. Hein. Je veux dire, voilà, il y a un temps d'adaptation.
Certaines, d'après ce que j'ai compris, hein, certaines sont nées en France.
Oui,
beaucoup.
Mais parce qu'ils sont... je pense que dans l'éducation, on les éduque comme ça aussi. Parce qu'en fait, les gens sont très... ces populations-là, en plus, sont très, conservateurs de leur tradition. Des fois, c'est leur façon à eux de se protéger, d'ailleurs. Oui, c'est peut-être ça aussi, oui.
À votre avis, elles se protègent de quoi, ces femmes?
Ben, pas s'occidentaliser trop vite, quoi, par exemple. Hein. Oui, c'est peut-être une forme de protection, oui. Ah, oui.
Chacun sa façon son parti et ouvrir le sujet à travers des programmes, à travers des réflexions sur la sécurité, ouais. Mais pas au niveau parlementaire.
Ouais.
Ils arrivent. Cette fois, plus aucun doute, ils sont là, ils sont parmi nous chaque jour, un peu plus nombreux chaque jour, davantage. C'est une invasion planifiée, de longue date, un long travail d'infiltration. On pourrait remonter, bien sûr, loin dans l'histoire, mais qu'on se souvienne comme ils se sont introduits dans nos usines, sur nos chantiers comme d'innocents travailleurs que nous avons accueillis et pour qui nous avons construit des logements avec des baignoires dans lesquels ils sont venus égorger leurs moutons. Que l'on songe à ces sympathiques épiceries, l'arabe du coin, le couscous du coin. Mais sous la merguez, c'était déjà le djihad, la conquête, ou plutôt la reconquête de l'Occident. Aujourd'hui, ils brûlent des voitures, ils droguent nos enfants, ils violent les femmes dans les tournantes. Pour elles, aucun autre choix, c'est soit pute, soit soumise. Et tout cela, évidemment, est impuni. La France se couvre de mosquées, le ramadan est une fête nationale. Les voici footballeurs, acteurs ou même ministres, une femme en plus, rien ne les arrête, même pas l'armée américaine en Irak. Les attentats du 11 septembre n'ont pas suffi à faire prendre conscience à un Occident cupide et avachi. La pieuvre verte tisse sa toile, l'islamo-fascisme est à nos portes. Ils viennent jusque dans nos bras égorger nos filles et nos compagnes. Mais ils sont avant tout parmi nous. C'est une cinquième colonne et ils attendent le signal, le grand signal, pour prendre le pouvoir. Bientôt, le drapeau vert flottera sur l'Élysée. Ils sont déjà dans les médias, dans la police, dans les ministères. À tous les postes clés, ils sont partout. Alors, que faire ? Résister ? Non, il faut se rendre à l'évidence. Il faut être pragmatique. Nous devons nous adopter, nous adapter, les adopter et faire ce que nous avons déjà fait dans le passé, c'est-à-dire collaborer. Apprenons l'arabe et la danse du ventre, fini l'alcool et le cochon, et surtout apprenons à nos femmes à porter la burqa. C'est le plus difficile, je le reconnais, mais songez à la finance islamiste, songez aux Émirats du Golfe. Nous n'avons plus les moyens de faire le difficile. Jusqu'à 16h, tout sur la burqa. Merci, la basse égyptienne. Dans ma mairie, il y a des fatmars, et des youyou, des foulards, des babouches, et des boubous, des voyous, des hôpitaux, des mamadous. Au secours, on n'est plus chez nous. Fiche, ma fille va épouser un morico. Notre coquerie youyou, au lieu de cocorico. Elle s'est mise en tête de se convertir, rejoindre notre camp. J'aurais encore préféré que ce soit un mariage blanc. Et je les vois, on dirait des gitans. L'argent des alas transformé en or sur les cartons. Manquerait plus que le voyage de noces en Afghanistan.
Jamais sans ma fille.
Je souffre déjà de ce qui m'attend.
Et quand ils dansent, on dirait une émeute.
Et qu'est-ce que t'as fait toi hein?
Qui fait baver la meute. Les pères ont les claquettes, les filles ont les baskets. Même avec le costard, la racaille met des casquettes. Ma fille s'appelle Marianne et je vis le drame.
Allah habibi Allah.
Ça plaît même un enfant. Je suis déçu, moi qui pensais qu'ils étaient polygames. J'aurais peut-être pu présenter mes maîtresses à ma femme.
Hey, dans ma mairie y'a des fatmars et des youyou, des foulards, des babouches et des boubous, des voyous, des oubidas, des mamadous. Au secours, on n'est plus chez nous.
Des derboukas, des tam-tams et des marabouts, hey, des grosses moustaches, des zoulous, des danses vaudou. Ça baragouine des charabias, ouais, il est là. Des deux points neufs, c'est hellebès. Faut les voir quand ils débarquent avec toute leur soumala, avec toute leur marmaille, on se croirait à la casse-bas. Ils nous emmerdent, ils nous saoulent avec leur tradition, leur code de la famille, leur rituel, leur religion. J'suis pas raciste, mais là y'a des limites. En France, monsieur, on a des règles de conduite. C'est un siècle, ils étaient tous encore parqués dans des eaux. Et aujourd'hui, ils veulent nous piquer notre boulot. Ils veulent être ministre, étudier à sciences politiques. Et pourquoi pas devenir président de la République. C'est le monde à l'envers, y'a plus d'hiérarchie, plus de respect. Ça veut même plus rien dire d'être un vrai français.
Dans ma mairie, y'a des fatmars et des youyou, des foulards, des babouches et des boubous, des voyous, des oubidas, des
a des Fatma et des you-you, des foulards, des babouches et des boubous, des voyous, des oubidas, des mamadou. Au secours, on n'est plus chez nous.
Site de l'Express. Christophe Barbier.
367. Elle serait, selon la police, 367 seulement en France.
30 juillet 2009.
À porter la burqa ou le niqab, le voile intégral. Précision du chiffre et légèreté des commentaires. Évidemment, tout cela est faux. Il suffit de descendre dans les rues de certains quartiers, riches ou populaires de notre pays, pour se rendre compte que beaucoup plus de femmes musulmanes portent un voile intégral, un voile incompatible avec les valeurs républicaines. Il faut bien entendu lutter contre la présence de la burqa, du niqab en France, quelles que soient les raisons pour lesquelles ce voile est porté. Il y a évidemment une stratégie des islamistes de faire reculer la démocratie, de profiter de la faiblesse des démocraties pour avancer leurs pions, pour marquer des points, pour engranger des victoires morales. Il y a dans la burqa une forme d'excision mentale. En moins grave, bien sûr, on peut enlever une burqa, l'excision est irréversible. Mais sur le fond, il y a cette négation de l'individu, de la femme comme individu, et ça c'est intolérable. On nous dit, dans ce rapport de la police, que la plus jeune des femmes porteuses de burqa qui a été recensée a 5 ans. Ce seul détail devrait nous inciter à faire une loi contre la burqa. Comment peut-on ensevelir sous un voile religieux une petite fille de 5 ans ?
Allez, couillon !
Voilà, ainsi parle Christophe Barbier, éditorialiste du journal L'Express. La burqa, une forme d'excision mentale et le signe d'un complot islamiste. Rien que le choix du mot burqa devrait déjà prêter à controverse, puisque la burqa est exclusivement portée et visible en Afghanistan, chez les Tadjiks comme chez les Pachtounes, ceux qui ont aimé le commandant Massoud il y a quelques années. N'oublie pas, bien évidemment, que dans le Panjshir, les femmes portent la burqa et qu'à l'époque, en 2001, d'ailleurs comme en 2006, au cours des reportages qu'on a fait là-bas, on avait parlé de génocide, G-Y-N, génocide. Le niqab se porte dans les pays du Golfe persique et c'est effectivement ce vêtement noir qui laisse à peine voir les yeux de l'extérieur. Et c'est un vêtement de ces régions-là et qui est apparu en France très rarement, puisque ces deux rapports différents des services français montrent que leur nombre est très très limité. On les voit dans les quartiers populaires, en l'occurrence Vénissieux où nous sommes, mais aussi dans la banlieue parisienne, dans le 9-3 ou dans le nord de la France. Alors voilà, on s'est beaucoup inquiété de cette affaire, ce témoignage, cet éditorial en témoigne, mais beaucoup d'autres, fin juin, se sont inquiétés. Tout ça est parti d'un homme qui s'appelle André Gérin, qui est l'ancien maire de Vénissieux, qui est député aujourd'hui et qui est quelqu'un qui connaît bien ce terrain. Il est député maire communiste, il connaît bien ce terrain, il connaît bien Vénissieux, il connaît bien les quartiers sensibles, l'islam de ces quartiers, et c'est lui qui a déclenché cette nouvelle campagne. Elle n'est pas nouvelle, bien évidemment, il y a eu le voile auparavant, on va évoquer cette longue histoire, ce que Thomas Deltombe, le chercheur Thomas Deltombe, appelle l'islam imaginaire, mais ça c'est son point de vue à lui, on va le retrouver. En tous les cas, voici le point de vue de l'ancien maire de Vénissieux, le député communiste André Gérin.
Depuis plusieurs années, en France, et dans mon périmètre de l'agglomération lyonnaise, qu'est-ce qu'on observe ? De plus en plus de femmes qui sont dans des cercueils ambulants, sur les marchés, dans les rues, à la sortie des écoles. Alors problème d'une directrice d'école à qui je remets l'enfant, j'ai un fantôme devant moi. Problème pour établir une carte d'identité ou un passeport, le refus de se dévoiler. Problème du médecin homme à l'hôpital, etc. Donc voilà, problème pour parler concret, précis, pour établir un mariage. Donc voilà, problème concret. Et aujourd'hui, de plus en plus régulier, il y a des conflits, voire des hommes qui accompagnent les femmes, qui menacent des fonctionnaires dans certains territoires. Donc voilà. Et pour moi, quand j'ai fait ma proposition de commission d'enquête, c'est tout ce cheminement de choses qui se passent dans la société française, cette prise de conscience, me semble-t-il, et que cette question, pour moi, elle est républicaine. Pour moi, l'objectif de la mission d'information, c'est de faire un état des lieux, c'est de comprendre ce qui se passe et de déboucher sur des préconisations. Et pour moi, les préconisations, il faut qu'on puisse les élaborer en coopération avec les associations féminines, les associations laïques, les associations musulmanes qui veulent un islam apaisé, respectueux de la République, respectueux de la laïcité de la France. Et c'est ce chemin-là qui m'intéresse pour faire reculer l'emprise des fondamentalistes sur une partie de la vie civile et notamment de nos gamins dans certains quartiers.
Alors, quand vous dites fondamentalistes, c'est les salafistes?
Je pense que c'est les salafistes. Dans tous les cas, je suis sûr d'une chose, c'est que quand on regarde de près ce qui se passe, on voit bien que derrière tout ça, il y a des coutumes moyenâgeuses, derrière tout ça, il y a une sorte de retour en arrière qui serait incroyable. Quand on voit ces femmes qui sont dans des cercueils ambulants, on se dit, attends, on est où? On est comment? Et c'est sous couvert de la religion. Or, en fait, derrière, il y a un projet politique. Derrière, il y a une contestation de la société, à la fois vis-à-vis des femmes, mais surtout, y compris, la contestation des valeurs démocratiques progressistes de la France, de l'Occident, je dirais, en général. Et je trouve que ça, c'est très, très important.
Il se trouve que pour le voile intégral, en France, il y aurait 367 cas.
Ridicule.
Pour vous, c'est faux?
C'est ridicule. Ouais, je réponds ça, moi. Mais ça me fait rigoler.
Il y a une mission d'information en ce moment, mais vous parlez de cercueil ambulant.
Oui.
C'est un jugement de valeur.
Je n'ai pas justifié ce que je vous dis. Pour moi, c'est des cercueils ambulants. C'est la négation de la différence et de la féminité et de la femme. C'est même du talibanisme.
Je vous sais assez direct habituellement.
Oui.
J'avais cru comprendre, avant même ce débat,
France 2.
Que, en tout cas, vous, ça vous enchantait pas, ces histoires de burqa.
29 juin 2009.
Pour ce qui me concerne, j'ai eu l'occasion de m'exprimer. Je le dis très clairement.
Fadela Amara.
Moi, je suis heurtée quand je vois des burqas, quand je vois des niqabs. Ça me rappelle tout simplement qu'il y a la présence ici de courants fondamentalistes intégristes dans notre pays. Ça me rappelle aussi que nous sommes dans une situation, et le président de la République, Nicolas Sarkozy, l'a très bien rappelé dans le discours de Versailles, que ce n'est pas un signe religieux, mais que là, nous avons affaire à autre chose qui touche à la dignité de la femme et qui prône l'asservissement des femmes. Donc, on est dans le débat de la question du respect de l'égalité homme-femme. Donc, on est dans le débat d'une valeur fondatrice de la République.
Vous avez parlé de cercueil qui tue les libertés fondamentales. L'image vous semble appropriée?
Oui, même si elle peut paraître, si elle peut bousculer l'ordre établi et les bien-pensants de ce pays.
Alors Abdelaziz Chambi est-il un des bien-pensants de ce pays? C'est lui qu'on rencontre maintenant. Il a 52 ans. Il est, c'est un militant associatif. Il a des heures de vol derrière lui. Il était présent. Il fut l'un des protagonistes de la marche des beurs en 1983. Et il connaît très bien le maire de Vénissieux, André Gérin. Il est d'un de ses interlocuteurs, Abdelaziz Chambi.
Donc là, Abdelaziz, on est donc au milieu des Minguettes, on est entouré de tours, il y en a pas mal, des tours de quoi, 10, 15 étages.
15 étages.
C'est ici, d'après monsieur André Gérin, qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de femmes qui portent la burqa, le voile intégral. Plus de 200 rien que pour les Minguettes.
Plus de 200 pour les Minguettes, c'est entièrement faux. C'est une sorte d'épouvantail qu'il a sorti pour dire « Aidez-moi, venez avec moi vers la nouvelle croisade ». On a George Bush qui a dit, après le 11 septembre, la croisade. On a aujourd'hui des gens comme André Gérin, ou d'autres d'ailleurs au niveau national, qui nous sortent la même rengaine, c'est-à-dire qui exploitent le même fonds de commerce. Cette question de la diabolisation de l'autre, de l'amalgame entre islam, islamisme, intégrisme, terrorisme, etc. Et ça rend rentable. Eux, ils l'ont compris. Donc, c'est une sorte d'exploitation comme ça, fictive, de phénomène qui s'est inventé. Ils existent. On ne dit pas qu'ils n'existent pas, mais ils les ont amplifiés d'une manière extraordinaire au point que ça a résonné dans les réseaux, manipulateurs du temps. C'est des manipulateurs du fait social. Aujourd'hui, on est sur des problématiques économiques, sur des crises sociales, sur le pouvoir d'achat, sur des licenciements par milliers, sur une mondialisation qui arrive en bout de course, etc., qui capitalisme qui se casse les dents. Et qu'est-ce qu'on nous sort du chapeau ? Un mec comme lui qui est censé prôner la révolution ou je ne sais quoi, ou le socialisme, machin, il nous sort un truc à la noix, un truc de derrière les fagots sur des foulards, des burkas, qui représentent à peine 300. Mais quand bien même, il y aurait 10 000 cas. Il est où le problème ? Et il y a eu 15 000 morts pendant la fameuse canicule. On ne l'a pas vu monter au chrono pour imposer une loi, pour dire aux enfants, prenez en charge vos parents et qu'on n'enterre pas 60 cadavres qui ont été non reconnus par les leurs et qu'on était obligé d'en mettre à la fosse commune. C'est scandaleux. Donc ce mec-là, il a visé la place de Marie-Georges Buffon. On l'a vu, c'est sorti au niveau national. Lui, ce qu'il veut, c'est arriver là-haut. C'est arriver à avoir cette aura nationale, cette visibilité au niveau national qui lui manque tant. C'est pas le fait du hasard qu'on me la joue pas à moi. Quand on voit le président de la République qui nous dit ceux qui font qui égorgent leurs moutons dans la baignoire, etc., à qui il fait référence ? Il fait référence aux musulmans. Quand on voit Ségolène Royal en pleine campagne électorale nous dire « Moi, je suis la candidate des femmes voilées, des femmes violées, des femmes excisées », eh bien, on vomit, on dit « Mais c'est quoi ce truc ?» La droite, la gauche confondues font un fonds de commerce sur notre identité, sur notre réalité, sur notre vécu. Mais c'est criminel comme attitude. C'est pas des courageux. Qu'ils apportent des solutions économiques, qu'ils apportent des solutions sur le partage des richesses, qui ne viennent pas se faire les dents, comme on dit sur nos côtelettes, parce que nous, aujourd'hui, on n'a pas les moyens politiques de recasser les dents.
Voilà le point de vue d'Abdelaziz Chambi, on va le retrouver. Mais évidemment, cette burqa a une histoire, et on ne manque pas de la raconter. Voilà Thomas Deltombe, dont je vous parlais, qui est journaliste indépendant, qui est chercheur, et qui a publié un ouvrage intitulé « L'islam imaginaire ». Il a étudié de près quelle a été la construction médiatique de l'islamisme ou de l'islamophobie, disons, en France entre 1975 et 2005. La burqa a une histoire.
Il y a eu une affaire mondiale qui a eu lieu au début de l'année 89, qui s'appelle l'affaire Salman Rushdie ou l'affaire des versets sataniques. Il y a eu un énorme débat en France, comme dans plein d'autres pays, sur la liberté d'expression, sur le fanatisme musulman, qui a été posé, qui a été levé par les médias, par un certain nombre de responsables politiques qui ont estimé, exactement comme dans l'affaire des caricatures, la récente affaire des caricatures, qui ont estimé que il fallait défendre la liberté d'expression, il fallait défendre un certain nombre de valeurs dont l'Occident serait le berceau. Bon, ça, c'est des choses qui ont été dites. Là-dessus, on est toujours en 89. Il se trouve que le 14 juillet 89 et l'année 89, on célébrait le bicentenaire de la Révolution française. Donc, il y a une auto-exaltation, une auto-satisfaction qui s'est manifestée, dans des célébrations, toute une série d'émissions, de discours, Et ce contexte particulier a fait qu'à la rentrée scolaire de septembre 1989, des journalistes, en réalité, d'Antenne 2 et du Nouvel Observateur, ont estimé qu'il était important, urgent, nécessaire de faire une émission et un dossier spécial en ce qui concerne le Nouvel Observateur sur le fanatisme religieux. Parce que c'était la terminologie de l'époque, on parlait beaucoup de fanatisme. On n'avait pas encore utilisé le terme d'islamisme, on utilisait le terme de fanatisme. Avec toutes ces références à la révolution iranienne qui avait eu lieu 10 ans avant. Et à partir d'un petit exemple local à Creil, qui avait été relayé d'abord par le courrier Picard, ensuite par l'agence France Presse, l'AFP, pour faire une accroche actu, comme on dit dans les médias, la rédaction d'Antenne 2 a décidé de médiatiser cette affaire. C'est un choix. Ils ont décidé de médiatiser cette affaire pour justifier le fait de revenir sur cette question du fanatisme qui avait été beaucoup débattue 6 mois avant dans le cadre de l'affaire Rushdie. Et cette émission s'est focalisée sur cette question du foulard à l'école, de la laïcité, etc. Et ça, cette émission a participé au lancement d'une affaire, quoi, une affaire médiatique très importante, et pendant des semaines et des deux semaines, c'est-à-dire pendant près de 3 mois, je crois, jusqu'à la fin de l'année, les milieux médiatiques se sont mis à débattre de cette question. Il y a eu plein d'éditoriaux, plein de prises de position, plein de courriers des lecteurs sur cette affaire de foulard, et avec cette dimension dominante qui est que non, il faut que la France, pilier des droits de l'homme, pilier de tout ce qu'on veut, n'accepte pas ce signe d'obscurantisme, de sexisme, d'inégalité des sexes, etc. Bon. Voilà, c'est absolument clair, quoi, que c'est, une affaire qui a été montée, qui a été lancée par les médias, qui a été attisée par une concurrence entre les médias, qui a été exploitée par des responsables politiques qui ont joué des jeux à plusieurs bandes pour lutter contre des adversaires politiques en interne ou en externe, et qu'à la fin, on a totalement évacué, ce faisant, la question sociale. Puisque, finalement, on est aussi dans un contexte où Mitterrand vient d'être réélu et qu'on est exactement dans les mêmes thématiques qu'en 81, où à partir du moment où la gauche est au pouvoir, elle évacue la lutte des classes, elle évacue la question de la domination sociale. Bon, ben voilà. Et là, avec ce genre de débat sur le foulard, sur l'islam, sur l'intégrisme islamiste, le terrorisme islamique et toutes ces questions-là, on divise absolument les luttes de revendication sociale. Ouais, je veux dire, c'est clair. Et à partir du moment où ça a été lancé comme une affaire médiatique, un certain nombre de gens ont instrumentalisé cette question à d'autres fins, tout bêtement. Voilà, c'est un instrument, l'islam, c'est un instrument. Et je pense qu'il est urgent d'avoir des discours de contre-propagande, quoi. C'est ça la priorité, c'est de lutter contre ce discours de propagande.
Pour la première fois ce matin, la police était présente devant le lycée Romain Rolland. Sans doute pour empêcher les incidents d'hier, quand le lycée était bloqué par un piquet de grève composé d'élèves et de personnes étrangères au lycée.
Antenne 2.
Ce matin, plus de grève, le comité de soutien aux jeunes filles voilées suspend son mouvement.
27 septembre 1994.
Réunis en assemblée générale hier, les professeurs sont catégoriques contre le port du voile au nom de la laïcité, contre les méthodes du comité de soutien.
Ce qu'on sent, c'est qu'il y a une pression, oui, qui s'exerce sur les élèves, qui a quelque chose qui est de l'ordre du terrorisme, si on peut employer ce terme, je crois, dans ces cas-là, puisque c'est une pression qui est aussi bien verbale, d'abord, que physique, et qui met les élèves dans un état de peur. Je crois que c'est ce qu'on appelle le terrorisme.
De la part d'islamistes, de militants islamistes?
Je ne les connais pas. De la part d'individus qui ne sont pas connus de nous comme étant des lycéens.
Abdelaziz Chambi, tu as 52 ans. Mmh. En 1983, tu étais parmi les marcheurs. Donc la marche, ce que la mémoire collective
connais,
a retenu, la marche
sûr,
des beurs.
Bien sûr,
donc ça, c'était
militer,
en 83. Et en 1992, tu es celui qui a mis ici en place pour la première
le
fois en 1992.
Le premier congrès de la jeunesse musulmane, effectivement, en 92 ici, avec l'Union des jeunes musulmans, dont je suis un des cofondateurs. Et on a lancé un travail au Menguet. Alors, c'était pas le hasard. On l'a choisi volontairement aussi.
Ici.
Moi, ici. Pourquoi? Parce que la marche est partie des Menguet. Faut pas l'oublier. Donc, c'est la révolte des gens des quartiers populaires qui exigeaient l'égalité de traitement, l'égalité de droit et de la lutte contre le racisme. Nous, ce qu'on voulait, c'était montrer qu'on voulait continuer ce combat politique pour la revendication d'égalité de droit et de traitement, mais en même temps dire, aujourd'hui, c'est plus nos parents qui vont être dans l'invisibilité culturelle, dans l'invisibilité de leur identité, dans l'invisibilité de leur religion, c'est plus l'islam des caves. On veut, nous, aujourd'hui, revendiquer à la lumière, au vu aussi de tout le monde, le fait qu'on est musulman, mais qu'on est citoyen et qu'on veut participer.
Ça, c'était donc en 1992 avec le premier congrès des jeunes musulmans de France.
Exactement, on a fait 92, alors au préalable.
Et comment il a réagi, donc André Gérin, à l'époque, il était le maire.
Nous, on avait créé l'Union des jeunes musulmans en fin 87. Donc à Lyon, on était déjà, on commençait à se faire connaître sur la place publique. Et on est venu effectivement à Vénissieux, on a ouvert là la tour 15, là, qui est juste là.
En face de nous, là.
Un lieu de culte. Donc là, André Gérin, il était tout ouïe. Le bonhomme, il a été élu grâce aux voix des musulmans à chaque élection municipale.
Ça, c'est sûr.
Ça, c'est certain, et tout le monde le sait, et il suffit de regarder dernier
mais
épisode.
Est-ce que ça veut dire que toi, par exemple, à l'époque, tu étais quand même un acteur incontournable face à M. Gérin,
oui.
Donc tu as appelé à voter pour
lui. Oui, nous, on préférait, je le cache pas, même aujourd'hui, moi je préfère voter pour un mec communiste que laisser le Front National prendre une municipalité et m'imposer une politique à Vitrolles ou à ce qu'on a vu à Orange. C'est-à-dire que c'est un mec qui a compris que les musulmans peuvent être rentables politiquement. Il n'y a pas que lui, d'ailleurs.
André Gérin, à cette époque, est déjà l'interlocuteur. Votre interlocuteur, c'est le maire, donc ici, pour Vénissieux, et donc, a fortiori, du quartier où on est, les Minguettes. Est-ce que, de cette époque, de 92 jusqu'à ses dernières sorties médiatiques, notamment contre la burqa, est-ce qu'il a vu se développer ou non ce que certains appellent, et même beaucoup, le salafisme, ici aux Minguettes?
Alors, moi, je
alors, il n'entrait pas du tout dans les nuances.
Moi, je le défie, et je peux vous prouver par A plus B, qu'il a été le premier à laisser s'installer quelques groupes, effectivement, salafistes, en tout cas d'obédience salafiste sur sa commune, qui sont parfaitement identifiés par les pouvoirs publics, par les RG et par les militants associatifs. Il prétend aujourd'hui faire son combat républicain, n'empêche que c'est un bonhomme qui était allé à Guantanamo pour aller chercher Mourad et Nizar Sassi, Mourad Ben Chalali. Il est allé défendre des gamins qui étaient soi-disant impliqués dans le terrorisme international, qui étaient non pas des salafistes ou des frères musulmans, des terroristes potentiels. Il ne faut pas qu'il nous la joue à l'envers. Donc c'est un mec qui deal avec les musulmans, en même temps il leur crache dessus. Il veut être plus royaliste que le roi, donc il sort un truc encore plus gros, quoi. Voilà. Vous voyez, la burqa, machin, liberté des femmes. Liberté de quoi? Mais qui regarde l'Assemblée nationale? Lui siège, il y a 12% de femmes. Pourquoi il ne vient pas faire le ménage chez lui? Il a qu'à nettoyer. Pourquoi il y a 20% à 30% de salaire en moins pour les femmes? Pourquoi il ne se préoccupe pas de ça s'il veut se préoccuper de la situation de la femme? Qui balaye devant sa porte, ce mec? Qui nous aide à faire en sorte qu'à l'Assemblée nationale, il y ait la mixité et la parité? Donc c'est des combats qui sont truqués. On sait que c'est truqué. On sait que ce sont des gens qui veulent faire carrière politique sur le dos d'une population donnée. Ils l'ont fait sur les immigrés. Le Pen, il l'a fait sur le dos de nos parents. Et eux, ils veulent la faire sur nous aujourd'hui.
Petite partie de pétanque au soleil. Il en reste encore.
Quelle heure il est? Il est 19h45.
Oh, ballon!
C'est quelqu'un qui fait une émission avec Daniel Mermet sur France Inter. Ouais. Donc moi, il est en train de m'interviewer en tant qu'un ancien acteur ici, là, des Minguettes, etc. Et il voulait avoir un peu l'avis des jeunes. Donc c'est quelqu'un qui est prêt à s'exprimer là-dessus.
Savoir ce que vous en pensez, ouais.
Pensez de quoi?
La campagne qu'a lancée, comment s'appelle, André Gérin sur la burqa, par exemple.
Et qu'on cherche à avoir... Non, mais c'est un prétexte qu'ils cherchent, les gens. Ils n'ont rien à dire d'autre. Et voilà, ils cherchent musulmans aussi. Mais je sais pas pour il a peur pourquoi. Si par exemple il sait pas reconnaître une femme ou un homme ou les histoires de terrorisme ou un truc comme ça, bon, tellement que ça c'est vague maintenant avec les histoires de 11 septembre, il y a un peu de tout. Demain tu vas entendre parler de dans la baignoire il y a un mouton, il y a une poule, il y a si. Et pourtant il est là, hein, il vient se couper les cheveux à la rotonde, on le croise tous les samedis, plein de sourires, plein de vices.
Ouais, parce qu'il est resté député.
Il est resté député. Il est égaré pour nous. Hein. Pour nous il est égaré. Hein. C'est toujours les mêmes sujets.
Toi, t'as quel âge aujourd'hui?
Moi, j'ai 25 ans.
Et t'es né ici, toi, t'as connu ici.
J'ai pas jamais bougé d'ici. Et c'est toujours la même merde. Le foulard, les musulmans, y a pas de travail, c'est les émeutes, c'est la drogue, c'est ci, c'est ça.
Tu travailles?
Je travaille, je suis intérimaire. Ouais. Mais bon, je suis un cas sur 10. Il y a un cas sur rare. On est par exemple les 10 personnes, je suis seul à travailler, par exemple.
Ouais. Les autres, vous travaillez pas de boulot, les autres?
Non,
on travaille pas.
C'est la crise, toi, ouais.
Je sais pas. On se démerde, ça gratte un peu, on prend un peu d'argent, on achète des lots, on vend des parfums et voilà. Et les gens ils croient que c'est du malhonnête, mais voilà, on peut pas faire autrement pour payer le loyer.
C'est toi qui le paye?
C'est moi et ma famille. Bon, par exemple, mon père il est décédé, donc c'est moi qui paye. C'est moi l'aîné de la famille, je suis obligé d'assumer. Si moi je paye pas le loyer, les petits vont les braquer. C'est un exemple, t'as vu? Et voilà quoi, 750€, la maman elle peut pas payer tout seul, ça fait qu'on est obligé de l'aider. Et je parle pour mon cas à moi, mais c'est le cas de tout le monde ici, on est tous dans le même cas, tu vois, c'est tous la même merde. On cherche à survivre.
Et ça, ce qu'ils ont fait, on l'a fait avant. C'est voilà. Ça le comble. C'est-à-dire qu'une génération sur l'autre, les mêmes problèmes.
C'est-à-dire que toi, 30 ans avant,
oui,
tu faisais pareil.
Des gens de chez nous, on fait la même chose. C'est-à-dire que la situation n'a pas bougé.
Demain, quand on entend les histoires des lecteurs, tout ça, tellement que ça avance pas, on voit des grands frères, nos parents, tout ça, pas avancer. Pourquoi tu veux que nous, on va faire la même chose? On va s'enfoncer. Eux, ils ont fait la même chose, ils sont galérés, ils ont fait la marche, la marche de Marseille. Ils sont tous là.
La marche des beurs dans les années
40. La marche des beurs, ils sont tous ici. Ils ont fini comment? Ou SDF, ou alcoolo, ou en prison. Ça fait nous la seule chose maintenant que, alhamdoulilah, il y a la salade, frère.
La prière.
La prière. On fait la prière et on se met à Dieu. Il n'y a que ça de vrai.
Vous là, assis sur le banc avec votre pote, c'est pareil, même point de vue?
Bah, c'est le même point de vue.
Il y a l'islam, sinon t'aurais pété un plomb.
C'est pas que j'aurais pété un plomb, mais je serais pas dans les mêmes circonstances, frère. Il y a 5 ans en arrière, j'aurais pas parlé avec toi. Pour moi, tu serais un flic. T'as vu, je serais parano, ah, c'est un flic, ah, si, la drogue, putain, ils veulent nous baiser, d'où ils sortent, un dimanche. C'est un dimanche en plus. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, encore 5 minutes après, je vois les flics passer, ça fait.
C'est clair.
On baiser. Maintenant, frère, on essaye de s'insérer dans l'islam, et il y a que ça de vrai. Pour nous, hein, personnellement, les jeunes de nos jours, on est comme ça.
TF1.
On n'est pas polygame.
Nicolas Sarkozy.
On pratique pas l'excision sur ses filles. On n'égorge pas le mouton dans son appartement.
5 février 2007.
Et on respecte les règles républicaines.
Beau exemple, ça va beaucoup plus loin.
Ça, c'est pas.
Monsieur,
c'est honteux.
Mais même
c'est
monsieur,
de la religion
monsieur,
musulmane,
mais
peut-être.
Attendez.
Je suis d'origine.
Attendez.
Algérienne,
attendez.
Et je suis musulmane et je me sens insultée.
Voilà, on continue, toujours à Vénissieux, et retour à André Gérin, ex-maire de Vénissieux et député communiste, je le rappelle. Il faut rappeler aussi qu'on a essayé d'interroger des porte-paroles du Parti communiste qui n'ont pas souhaité se prononcer, mais enfin on sait que on ne peut pas dire qu'il ait un très large soutien à l'intérieur du Parti communiste français. Son point de vue.
Dans les fins des années 80, début 90, à peu de choses près, les arguments contre le port du voile sont les mêmes que les arguments aujourd'hui contre le port du voile intégral. À peu de choses près. Donc on parlait déjà de combats républicains, de pratiques vestimentaires liberticides. Mais vous, à la même époque, au même moment, on vous voit dans une vidéo où vous faites face à une assemblée dans un grand gymnase, donc forcément de la municipalité, coupé en deux. Donc, d'un côté, les hommes, de l'autre, les femmes. Et déjà, je crois que c'est 92-93, et on voit énormément de femmes, pour pas dire la totalité, très couvertes. Il manque juste un petit bout de tissu pour que ce soit pas un voile intégral. Et à ce moment-là, vous dites, on a les mêmes préoccupations.
Depuis, j'ai fait ma prise de conscience par rapport au rôle et à la place des fondamentalistes dans ma ville, comme ça se passe au niveau du pays. Mais je crois que ceux qui reprochent aujourd'hui, c'est ceux qui contribuent justement à soutenir avec Tariq Ramadan les fondamentalistes.
C'est qui les fondamentalistes ? Vous dites qu'il y a derrière un projet politique. Qui viendrait d'où ? Ce serait quoi la base de ce projet politique ? Les références, c'est qui ?
C'est ceux qui envoient des gamins de la région parisienne en kamikaze en Irak. C'est les attentats qu'on a vus au Maghreb, en Angleterre, etc. Voilà.
Vous êtes capable de dire ce que représentent les fondamentalistes en France ?
Pas du tout.
10, 15, 2%,
20% ? Pas du tout. Aucune idée. Moi, je suis contre le pourrissement moral et culturel. Je suis contre laisser faire cette nouvelle extrême droite pourrir la vie de nos quartiers. Parce que les fondamentalistes, c'est l'extrême droite. D'une manière globale, depuis 15-20 ans, on a laissé faire les choses. Il faut savoir si on a des valeurs et des idéaux à défendre qui sont issus de la Révolution française.
Le problème de l'islam, à mon avis, c'est moins Tariq Ramadan que David Pujadas, quoi.
Thomas Dalton.
On pointe du doigt une communauté qu'on a créée, quoi, qu'on a créée par des mots, par des images, par la répétition de ces mots et ces images en permanence. On a créé quelque chose qui a l'air d'être la réalité, mais qui en fait n'est pas la réalité. Et que les milieux, on va dire, au sens large, qui ont construit collectivement et parfois inconsciemment cette représentation de la réalité, exploite ça. C'est comme un capital dans lequel on peut puiser en permanence, quoi. Ah, il y a un petit exemple de ceci dans une piscine, dans un hôpital, dans une école, dans un truc. On prend cet exemple, qui est qu'un exemple, qui doit être contextualisé. On le colle avec un autre exemple qui vient d'ailleurs. Et on les met tous bout à bout. On en fait un discours qui, au final, devient un discours propagandiste, quoi. La propagande, elle vient pas d'Islamabad ou de je ne sais où. Ils viennent de la rédaction de France 2 ou de TF1, très largement, ou du Monde, ou de je ne sais qui. La communauté musulmane, c'est un terme qui apparaît à une époque donnée, en 89. On peut même retrouver la première émission où on parle de ça, si vous voulez. L'islamisme, c'est pareil, c'est quelque chose qui est daté, c'est le début des années 90, c'est très précisément entre la première guerre du Golfe et le début de la guerre civile algérienne. C'est à ce moment-là qu'on parle de l'islamisme. C'est pas des choses qui existent éternellement et qui tombent du ciel, non. C'est pas des trucs qui existent, c'est des trucs qui sont construits. Tout ça, c'est des instruments, quoi. C'est des armes symboliques. À force, j'ai regardé plein d'émissions, j'ai écouté plein d'émissions de radio, j'ai lu des tonnes d'articles et tout. Au bout du compte, ça permet aussi de justifier, de banaliser tous les processus de discrimination, d'exclusion sociale, géographique. À partir du moment où, l'islam, c'est soi-disant, c'est érigé comme problème et qu'on va prouver ça avec toute une série d'exemples, de pseudo-exemples remoulinés pour qu'ils s'intègrent bien dans le discours médiatique. Et vous comprenez, si c'est ça le problème prioritaire, la question du logement, la question du travail, la question du chômage, des discriminations, tout ça, ça devient secondaire. Vous comprenez bien qu'il y a une offensive massive et concertée du Pakistan, de l'Algérie, de l'Arabie Saoudite, je ne sais quoi, et qu'effectivement, si on braque tous le regard là-dessus, les véritables questions liées aux questions du travail, on les oublie. Très souvent, si on fait tout simplement un travail statistique, on s'aperçoit que on parle énormément des questions d'islam, très rarement, finalement, à l'initiative de milieux musulmans, mais beaucoup plus fréquemment à l'initiative des milieux dirigeants. À mon avis, ça devrait mettre la puce à l'oreille, quand même, dans la question à qui ça sert.
Alors, retour sur le terrain, à Vénissieux, avec Abdelaziz Chambi.
Nous, on était un peu, pas utopiste, mais optimiste dans le sens où on s'est dit pourquoi la GEC, la jeunesse étudiante chrétienne, et la JOC, jeunesse ouvrière chrétienne en France, qui ont fait à peu près le même cheminement que nous, dans le cadre d'éducation populaire, dans le cadre des camps, dans le cadre des activités socio-éducatives, pourquoi aujourd'hui il n'y aurait pas le même scénario, mais non pas avec la droite, mais avec la gauche. Nous, on y a cru. On a dit à un moment donné, on avait même pensé à une jonction avec le reste, entre guillemets, des prêtres ouvriers, parce qu'on en a connu quelques-uns. Et nous, quand on a eu la démarche avec André Gérin, même le Parti Socialiste s'intéressait à nous. D'ailleurs, à l'époque, il y avait une concurrence entre le Parti Communiste et le Parti Socialiste, à qui pouvait se rapprocher le mieux des musulmans. Et je me rappelle, même le PS, on a fait des réunions publiques avec eux et des réunions de travail avec eux. Et ils nous avaient dit, écoutez, vous dites que le foulard, c'est pas une obligation, les premières affaires du foulard. Et nous, on ouvre tout, comme ça, textuellement. Donc lui, il y avait une sorte de concurrence. Et nous, on y a cru. On a dit, tiens, une gauche intelligente, c'est une gauche qui tombe pas dans les préjugés, qui tombe pas dans les mises en garde bidons des RG, des préfectures, etc., et qui dit, moi, je suis au mieux du terrain, je connais mieux la réalité du terrain, et c'est avec ces gens-là que je vais pouvoir cheminer, parce que c'est eux les acteurs du terrain. Et aujourd'hui, la criminalisation, la diabolisation évoluant, nous évoluons avec l'âge, ma génération en tout cas, on a fait un chemin vers la citoyenneté, vers la responsabilisation, vers l'investissement citoyen. Et ben d'autres qui arrivent aujourd'hui ont vu que le refus continue, le rejet continue, la diabolisation continue, s'enferment un peu plus, deviennent un peu plus radicaux que nous on l'a été. Mais on a un moment
comment
donné...
Comment ça, plus radicaux?
plus radicaux dans le sens où l'expression, enfin l'attitude, l'apparence vestimentaire est beaucoup plus marquée, beaucoup plus différenciée des autres.
La rupture politique.
Le discours, la rupture politique, évidemment, c'est des cofards, c'est des mécréants, je ne traite pas avec eux, c'est une société de mécréants. C'est des ruptures à tous les niveaux de la société. Aujourd'hui, le système veut que l'encouragement du communautarisme impulsé un peu par Sarkozy fait que ils se répondent, quoi. Ça se répond. Moi, je vais remettre en cause la loi sur la laïcité, la loi 1905, pour faciliter, soi-disant, le truc de l'intégration des musulmans en France. Mais c'est pas vrai, on n'a pas besoin de ça. Nous, il suffit que le droit actuel soit appliqué de manière égalitaire, on n'aura pas de problème. Donc, il y a une sorte un peu d'appel du pied au communautarisme, aux écoles privées, au commerce communautaire. Et donc, il y a de fait ça qui se joue. Ce qui fait qu'on est dans une société qui se communautarise dans la parcellisation du vivre ensemble. Et ça, c'est le danger. C'est ça qui nous guette demain. Chacun va se préoccuper ou va bouger que lorsqu'il sera touché, lui, dans ses problèmes spécifiques. Alors que tu sois athée, juif, bouddhiste ou chrétien ou musulman, ça, c'est des choix personnels que tu fais, mais qui ne m'empêchent pas de te connaître, de chercher à connaître ta spécificité pour mieux nous entendre en tant qu'humain, en tant qu'être humain. L'islam recommande ça. Et alors qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les salafistes, en tout cas un courant parmi ces salafistes, prend la rupture avec l'autre, prend la diabolisation de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, il fait la réponse du berger à la bergère. La France ne veut pas reconnaître ces gens-là, et eux disent on ne reconnaît pas la France.
Alors pour toi, finalement, se poser la question de savoir si le salafisme c'est dangereux ou pas, c'est pas la question.
Pour moi, c'est une question secondaire. Si le salafisme est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des conditions, il y a des attitudes, il y a des postures politiques, il y a des postures d'intellectuels, d'hommes de médias, de faiseurs d'opinion, qui font qu'à un moment donné, ça devient la mode. Au point que des apprentis sorciers politiques comme André Gérin tombent dans le panneau en pensant tirer le jackpot.
Vous m'avez demandé quelle était mon opinion.
Oui, absolument.
Eh bien, je vais vous répondre.
France 2, 29 juin 2009.
Il y a, d'une part, le fait que moi je suis comme Fadela Amara, atrocement choquée.
Elisabeth Badinter.
De ce que sont devenus ces belphégores, ces fantômes, en ce qui concerne le combat pour l'égalité des sexes, que quand même on a mené depuis très longtemps. Mais je voudrais faire observer quelque chose qu'on observe rarement. En Occident, dans la civilisation occidentale, partout, la politesse minimum, la sociabilité minimum, c'est qu'on montre son visage à l'autre. Le visage, c'est l'ensemble de la personne. C'est une... Quand on se cache derrière un grillage ou un voile noir, vous êtes voyeuriste. C'est insupportable. Et c'est une entorse, mais profonde, à la sociabilité, mais primaire. Et moi, je pense que, et les garçons, et les filles qui se cachent le visage sont en tort. Et ça devrait être interdit.
Alors, Madame Badinter, Elisabeth Badinter, qui est très en pointe dans cette histoire de burqa, n'a pas peur des contradictions. On sait qu'elle est la première actionnaire de l'entreprise Publicis. Et Publicis a été maintes fois épinglée pour ses pubs sexistes. En 2002, par exemple, pour les soutiens-gorge Barbara, on pouvait lire avec ses soutiens-gorge « Quand on me dit non, j'enlève mon pull ». Ou un autre slogan était « Mon banquier me préfère à découvert ». En 2003, Publicis a été épinglé pour... Cette fois-ci, c'était pour une pub, pour une marque de soupe. Et le texte disait « À quoi rêvent les blondes ?» Au moins 7 minutes d'intelligence par jour pour les blondes. Et encore récemment, en décembre 2008, une campagne Publicis pour la marque Sloggy de dessous, et qui montrait un postérieur féminin avec comme slogan « En promo dans vos points de vente », tout ça c'était des campagnes Publicis. On finit avec Thomas Deltombe.
C'est non seulement marginal, mais surtout c'est la conséquence d'un certain nombre de phénomènes. C'est pas une cause, quoi. C'est pas en allant faire plein de reportages sur la burqa, le burkini ou autre fadaise qu'on va régler ces questions-là. Au contraire, à mon avis, il y a vraiment une question de priorité, quoi. Effectivement. Les questions liées à l'islam, à la religion musulmane en France, sont des questions. C'est des questions, effectivement, qu'on peut avoir, qu'il faut discuter, etc. Mais il y a une question de priorité. Est-ce que ce qui est le plus important, c'est de débattre sans fin sur le foulard, la religion musulmane, ou de s'intéresser en priorité à ceux qui instrumentalisent ces questions de façon très perverse pour leur carrière personnelle, à l'intérieur de structures, à l'intérieur de médias, à l'intérieur de partis politiques, à l'intérieur de syndicats, ou qui utilisent cette question pour diviser et désolidariser les mouvements de contestation, les mouvements de lutte sociale. C'est ça la vraie question. Tout à l'heure, vous me faisiez écouter le je sais même pas comment appeler ça, de monsieur Christophe Barbier, là. Bon, c'est, y a rien de plus classique. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce discours, il est basé sur des exemples. C'est très souvent comme ça, dans les éditos de BHL, de Caroline Forest, tout ça, c'est des exemples. Alors, oui, il y a quand même tel exemple qui prouve bien que, et à partir d'un cas individuel, on va le généraliser. Et ce qui peut être effectivement une difficulté interpersonnelle entre deux personnes dans la rue, dans une ville, ça va être élevé à un niveau public, et cette question interpersonnelle qu'il peut y avoir va devenir un choc entre deux blocs, entre deux segments culturalisés de la société française. Un choc de communauté, quoi. De communauté artificielle, totalement créée par du discours, quoi. Qu'est-ce que c'est que la communauté musulmane en France ? Les musulmans, enfin, c'est des constructions symboliques, c'est des constructions médiatiques, et ça devient des outils de propagande. Pour moi, c'est clair.
C'était un reportage de Dila Taibi, première diffusion le 8 septembre 2009. Merci à Abdelaziz Chambi et Thomas Deltombe, ainsi qu'à Kamel Desminguettes. À lire L'islam imaginaire, la construction médiatique de l'islamophobie en France 1975-2005 de Thomas Deltombe, publié par La Découverte en 2005. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, la rubrique émission Là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Olivier Daligo et Grégory Wallon, réalisation Coy Nguyen et Raphaël Moutard, assisté de Annie Le Bot, chef du répondeur Catherine Pinto. Si vous souhaitez réagir à cette émission, vous avez le répondeur de Là-bas si j'y suis, 01 56 40 37 37.
Monsieur a-t-il bien milité aujourd'hui ?
Milité, Jean-Albert, c'est tous les jours.
Oui, mais là, c'est le réveillon, monsieur. Encore un peu de dinde, un peu de foie gras, avec ce château Yquem.
C'est indécent, Jean-Albert. As-tu seulement entendu parler de la décroissance ?
Oh, monsieur, écoute trop là-bas si j'y suis, à 15h sur France Inter, et ça lui gâche le réveillon.
Jean-Albert, c'est la décroissance ou la mort de notre civilisation.
Quand même, monsieur. Monsieur ne va pas me laisser cette petite cuisse de rien du tout.
C'est vraiment pour te faire plaisir, Jean-Albert.
Ah, merci, monsieur. Et joyeuse fête !
Joyeuse fête !
France Inter, 16h. Les informations, Dominique Delaroua.
Noël à Bethléem, des milliers de chrétiens affluent en ce moment dans la ville où Jésus est né, selon les évangiles. Un défilé de scouts au son des flûtes, tambours et cornemuses a donné le coup d'envoi des festivités sur la place de la Mangeoire, face à la basilique de la Nativité, en attendant l'entrée solennelle du patriarche latin de Jérusalem. Le patriarche doit célébrer la messe de minuit dans l'église Sainte-Catherine, en présence du président palestinien Mahmoud Abbas. Dans son traditionnel message de Noël, le patriarche a déploré l'échec du processus de paix au Proche-Orient, tout en mettant en garde contre toute forme de désespoir. Encore des attentats en Irak. Attentat suicide cet après-midi dans un quartier chiite de Bagdad. Au moins 7 personnes ont été tuées et 27 blessées. Dans une ville plus au sud, une voiture piégée a explosé. 9 personnes ont été tuées et 73 blessées. C'est un vote historique. Barack Obama a salué ainsi la décision du Sénat américain qui vient d'adopter la réforme de la couverture maladie. C'était l'une des mesures phares du début de son mandat. Le projet de loi de la Chambre haute vise à fournir une couverture à 31 des 36 millions d'Américains qui en sont dépourvus. Ce texte de loi nous rapproche de la fin d'une bataille de près d'un siècle pour réformer le système de santé américain, a souligné le président lors d'une allocution à la Maison-Blanche. Le président de la Cour suprême du Pakistan a ordonné au gouvernement de reconnaître les eunuques comme un genre à part. Cela pourra figurer sur leur carte d'identité. C'est un premier pas vers la reconnaissance des droits de cette minorité de travestis. de travestis et de transsexuels. Un premier pas salué par la communauté, souvent harcelée par les policiers. Vers un retour à la normale sur le RER A, l'heure en tout cas est à la reprise du travail. L'une des deux assemblées générales de conducteurs a voté ce matin l'arrêt de la grève qui dure depuis 15 jours. Le trafic, lui, s'améliore. Selon la RATP, il y aura 3 trains sur 4 demain et durant tout le week-end, mais l'interconnexion restera suspendue à Nanterre-Préfecture. Des perturbations également à Montpellier en raison d'une grève des conducteurs du réseau de transport. Ils réclament une prime de 500 euros, une rame de tramway toutes les 10 ou 15 minutes selon les lignes et un bus toutes les 30 minutes. Quelques perturbations encore à Marseille où le trafic du tramway, paralysé depuis une semaine, reprend progressivement. En football, le club de Louhans-Cuiseaux, 20e et dernier du championnat national de foot, va faire appel. Le club a été exclu de la compétition pour des raisons financières par la Direction nationale de contrôle de gestion. Sa trésorerie présente un déficit de quelques 900 000 euros.
Ce soir,
de 20h,
Zabzik et Cotillon.
Et Cotillon.
Joe Farmer.
Le 24 décembre à 20h, France Inter vous propose de débuter votre soirée de réveillon avec un zapping musical lumineux. Pendant 3 heures, de nombreux rendez-vous agrémenteront ce feu d'artifice radiophonique multicolore, rythmé par les mélodies sud-africaines du spectacle Africa Umoja, les envolées lyriques du trio Esperanza et les riffs électriques des Fab Four Picard, les Rabbits.
Zabzik et Cotillon.
Un joli cadeau de Noël pour des auditeurs exceptionnels.
Ce soir, à partir de 20h, France Inter.
La différence.
Dans 15 secondes, il sera 16h04, Carrefour de l'Odéon. C'est tout de suite. Bonjour Frédéric.
Bonjour Dominique. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Un très joli livre-disque vient de paraître. Il y a plusieurs disques qui nous montrent les instruments anciens. C'est vraiment un travail absolument superbe. Peut-être une idée de cadeau, c'est bien tardif. Je sais bien, mais enfin, c'est publié chez Richard Carr, on peut dire en français. Le guide des instruments anciens, et bah, vraiment, c'est magnifique. Très, très bien illustré, avec des entrées très précises. On peut rencontrer, voir les instruments anciens, l'explication de leur construction, de leur jeu, aussi. Je vous propose tout de suite un ballet à 4 de Michael Pretorius. Alors, ça n'est pas tout jeune. Pretorius, musicien allemand, né en 1571. Donc, on est là à la Renaissance. Et il a été un des maillons, il a été un des chaînons entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Et même, il avance un tout petit peu vers l'époque plus classique. Et ce ballet à 4 est interprété par 4 bassons. On disait doucène aussi en français, ou alors fagotte. Un ballet à quatre de Michel Pretorius, interprété au basson, au pluriel, par Elsa Franck, Denis Rézindadre, Francis Mercet et Jérémy Papa Sergio. Et après ça, on va remonter. Je ne suis pas parti directement du Moyen-Âge, instrument assez entendu quelquefois. Ceux du Moyen-Âge ne sont pas à nos oreilles forcément très très mélodieux. Mais enfin, on pourra jeter une oreille intéressée quand même sur ses ancêtres des instruments d'aujourd'hui. Et je vous propose d'aller maintenant vers le temps de Monteverdi, et un peu après d'ailleurs, le temps où on aimait bien figurer le chant des oiseaux, et les flûtes étaient reines dans ce cas-là. Par exemple, voici de Sammartini, mais il y a pas mal de Sammartini, donc ça c'est Giuseppe Sammartini, qui est né en 1693. Je vous propose là un petit chant d'oiseau, la Pastorella, donc une pièce de la campagne, interprétée à la flûte par Frédéric de Ross.